a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Jacques Aristide avec vous. Le président américain Donald Trump propose de nouvelles mesures visant à sévir contre les voyageurs étrangers qui outrepassent la date d'expiration de leur visa pour ainsi prolonger de manière illégale leur séjour sur le territoire américain. La nouvelle politique punira les pays avec des taux élevés de ce qui est connu comme le dépassement de visa. Elle affectera principalement les pays africains. Nous en parlons avec nos invités dans cette nouvelle édition de l'Amérique et vous, AEV si vous préférez. Nous attendons également vos appels au 001-202-205-2623. Nos invités dans quelques instants donc, mais d'emblée, pour planter le décor, je vous propose un reportage que notre collègue Patsy Vidakusvara a réalisé sur le sujet, reportage que j'ai repris pour vous écouter. Plus de 9 millions, c'est le nombre de visas non-immigrants que les États-Unis ont délivrés l'an dernier. On compte parmi les bénéficiaires des touristes, des étudiants et des travailleurs temporaires. Ils sont venus du monde entier. Mais le hic, environ 2% d'entre eux ne sont pas repartis chez eux à la date butoir. La Maison-Blanche n'est pas contente. Elle a donné 3 mois au secrétaire d'État et à la sécurité intérieure pour régler le problème ou tout au moins réduire à ce taux. Sur le banc des accusés, les pays avec les plus forts taux de séjour prolongés. S'ils n'agissent pas, ils pourraient se voir imposer des conditions plus sévères en matière de visa américain. Quant aux voyageurs, ils pourraient être astreints au paiement d'une caution qui leur serait remboursée à leur départ des États-Unis. Cette politique est vue comme une nouvelle initiative du président Trump pour combattre l'immigration clandestine.
Le Congrès doit cependant également agir pour corriger nos lois sur l'immigration qui sont horribles, obsolètes, faibles et pathétiques.
Les étrangers dans cette situation irrégulière dépassent le nombre de personnes arrêtées à la frontière américaine, ce qui représente, d'après le gouvernement, une tranche importante des quelques 11 millions d'illégaux en Amérique. Mais faut-il cibler les pays avec les plus forts taux de dépassement ou les pays dont les ressortissants sont plus nombreux à prolonger illégalement leur séjour? La distinction est à faire et la question fait débat. Rick Sou, professeur à l'université de Buffalo.
Le Tchad a un taux de dépassement de séjour d'environ 20%, mais cela ne représente qu'environ 140 personnes en 2017, alors que vous avez un pays comme le Royaume-Uni qui compterait plus de 23 000 dépassements de séjour en 2017. Le Royaume-Uni a toutefois un taux qui est très bas, mais 23 000 est un chiffre qui dépasse largement celui de 140.
Djibouti, l'Érythrée, le Libéria et la Somalie sont parmi les autres pays avec les taux les plus élevés. Quelles mesures pourraient-ils prendre pour convaincre leurs ressortissants de rentrer? La réponse n'est pas encore connue. Pour des militants pro-migrants, la nouvelle initiative vise injustement les pays africains et pourrait être contestée devant les tribunaux. Sama Magona Sissé, du Comité des services africains.
Si le gouvernement décidait de limiter les visas d'affaires B1, B2 à des ressortissants des pays africains, vous pourriez intenter un procès pour discrimination et affirmer que ce changement de règles ou ce changement administratif est arbitraire et discriminatoire.
Une autre raison est avancée pour ce qui est de ces pays dans le collimateur. Le professeur Rick Sou, de nouveau.
Ce sont des petits pays et l'administration américaine peut penser qu'il est plus facile de traiter avec eux que d'essayer de s'attaquer à ces grands pays comme le Canada, le Mexique ou le Royaume-Uni.
Ils sont en fait 3 des 5 pays, les 2 autres étant le Brésil et le Venezuela, avec le plus grand nombre d'individus qui séjournent sur le territoire américain au-delà de la validité de leur visa. Pour l'administration Trump, s'attaquer à ce problème d'abus de visa expiré est prioritaire afin, dit-elle, de protéger les contribuables américains. Voilà pour le décor. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités en ligne de Silver Spring dans l'État américain du Maryland. Maître Joseph Fa, avocat et spécialiste du droit de l'immigration. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs.
Également au téléphone, mais de New York, Bakary Tandia, le coordinateur du comité des services africains et défenseur de longue date des droits des immigrants. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Maître Fah, je commence par vous. Le président Trump qui ordonne donc la répression des étrangers qui dépassent leur durée de visa. Quelle lecture faites-vous de cette mesure?
Je trouve que c'est, je ne sais pas quoi dire, c'est très suspect. Je me demande bien comment est-ce que cela sera exécuté et dans quelles conditions est-ce que cela sera fait.
Oui. Qu'en pensez-vous, Bakary Tandia?
Ceci s'inscrit dans la logique de la campagne du président, comme vous le savez, dès le départ, dans le cadre de sa première campagne. Le thème fondamental, c'était sur la chasse aux immigrés, et donc l'Amérique aux Américains, les étrangers dehors. Donc ce n'est pas du tout surprenant, et en plus, compte tenu des difficultés auxquelles il fait face actuellement, il cherche à détourner l'opinion publique par rapport à la réalité à laquelle il est confronté.
Mais Bakary Tandia, attendez un moment. L'Amérique, comme tout autre pays d'ailleurs, n'a-t-elle pas le droit de faire respecter ses lois?
En fait, l'Amérique, la particularité de l'Amérique, c'est la tradition d'immigration de l'Amérique est très connue. Et en plus, c'est un phénomène qui est toléré. Nous sommes tout à fait d'accord que tout pays a la responsabilité et la souveraineté de protéger son pays, ses frontières, etc. Bon, ce que nous demandons, ou les défenseurs des droits des immigrants demandent, il faut que ça se fasse dans une certaine régularité, en respectant certains principes, les droits fondamentaux des personnes intéressées, c'est-à-dire une solution juste et humaine. Et actuellement, il y a un consensus général au niveau de la population qui consiste à dire que ceux qui sont déjà ici, les 11 millions ou plus de 11 millions de personnes sans papier, leur situation doit être régularisée parce que ce sont des personnes qui contribuent au développement de l'Amérique. Ils vivent ici pendant plusieurs années, ils ont de la famille, etc. C'est totalement contre, en tout cas, la vision et les principes même qui ont à la base de la création de l'État américain d'agir d'une manière inhumaine et injuste envers ces personnes-là.
Joseph, écoutez ce que le président dit pour justifier cette mesure. Nous avons des lois respectées pour assurer la sécurité des Américains et protéger l'intégrité d'un système où, à l'heure actuelle, des millions de personnes attendent en ligne de venir en Amérique pour vivre le rêve américain. Donc, il y a des procédures à suivre. Vous obtenez un visa avec une date, avec une certaine validité. Donc, pourquoi violer toutes ces lois, toutes ces procédures?
Ben écoutez, à la suite de M. Bakary, je voudrais simplement dire qu'il y en a plusieurs qui viennent ici et qui se trouvent dans l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine, soit comme au Soudan, comme en Centrafrique, comme au Libéria, comme en Algérie, ou je veux dire à la Libye, pour des raisons de guerre. Ou même pour le Cameroun, plus simplement, très récemment. Il y a des raisons de guerre, des gens qui sont venus ici très simplement pour faire un tourisme, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent plus rentrer. Il y en a qui arrivent ici et ils se fondent la famille, ils trouvent des partenaires, ils convoient un juste nous, ils ne peuvent pas rentrer. Entre-temps, ils sont dans une procédure de régularisation de leur statut ici. Ça prend un peu de temps. Vous restez, vous devenez illégal parce que votre visa a expiré. Mais vous avez également des procédures de régularisation qui sont en cours. Et lorsque, pour aller un peu plus loin, vous vous rendez dans l'office d'immigration pour peut-être votre interview pour le changement de statut, à l'interview, vous êtes arrêté et détenu, alors que vous êtes là pour régulariser votre situation. Donc moi, je pense que s'il faille appliquer la loi, il va falloir qu'on donne la possibilité aux gens effectivement de régulariser leur situation sans qu'ils
n'aient peur. Oui, maître Fa, je m'excuse de vous interrompre. Alors là, on est en train de parler de visas non-immigrants qui comptent, par exemple, des gens comme des touristes, des étudiants, des travailleurs temporaires. Donc, quelque part, on a fait quoi dès le départ quand on a fait une telle demande d'un tel visa? Donc, on a menti pour avoir un tel visa et puis on vient ici, on change les règles?
Ben, je pense tout à fait. Il s'agit d'un visa non-immigrant, bien évidemment. Si vous avez un visa immigrant, vous n'avez aucun problème quand vous arrivez ici. Mais il y en a, je suis d'accord, qui, dès le départ, mentent pour obtenir un visa, surtout les demandeurs d'asile. Vous comprenez qu'ils mentent. Ils n'ont pas l'intention de retourner. Ils arrivent ici, ils demandent l'asile. Il y en a qui mentent, qui arrivent ici et qui n'ont aucune raison de demander l'asile et ils n'ont aucun dossier à déposer, ils se trouvent dans le noir. Alors, sur la qu'est-ce qu'ils font en faire? Moi, je pense qu'il faudrait mettre des mesures en place. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que le gouvernement va trouver comme mesure. Moi, je trouve que la situation n'est peut-être des bons et tout ça, je trouve ça manifestement difficile à mettre en œuvre. La situation de pénaliser les pays d'origine, je ne sais pas comment cela sera fait parce qu'un citoyen ne saurait mettre la souveraineté d'une nation étrangère en jeu. Moi, je ne sais pas trop comment cela sera fait. Oui. Mais pour ceux des visas non-immigrants qui arrivent ici et qui durent, il y en a qui demandent légitimement le visa avec l'intention de retourner même avant la durée de leur séjour et qui, ici, pour une raison ou pour une autre, peut-être des maladies, peut-être des situations d'urgence familiale, ne peuvent plus retourner parce qu'il y a eu changement entre-temps dans leur pays et ils se retrouvent contre leur volonté dans une situation irrégulière. Donc ça, il faut faire la distinction. Et également, ce programme que propose le président, moi, je suis d'accord avec mon confrère avec qui je suis à l'antenne présentement, il s'agit plutôt d'un programme politique pour faire bouger les électeurs dans un an. Parce que vous vous souvenez, il avait promis de faire construire le mur du côté de la frontière avec le Mexique. Cela n'a pas été fait. On a promis bien des choses, cela n'a pas été fait. Il faut aujourd'hui trouver une autre base sur laquelle on va vendre ou alors faire acheter, monnayer les votes, si je peux me permettre l'expression. Et cela, je ne cadre pas très bien avec ce que moi je vois comme étant certaines législations américaines.
En tout cas, je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. Quelques-uns de ces commentaires. Les bénis Moïse. Trump ne gouverne pas pour plaire aux Africains. Nous devons nous en prendre à nos oligarques de dirigeants mafieux qui ne veulent que le pouvoir et tout le miel qui va avec. À eux et à leur famille, si M. Trump était un dirigeant africain avec cette politique qui met l'intérêt national au-dessus de tout, les Africains que nous sommes, je pense qu'on s'en réjouirait. Un autre, Biaksubo Paimi, bonsoir la VOA, et il est au téléphone, mais je voudrais lire ce commentaire et il va peut-être ajouter un petit mot et après. Alors d'abord il commence par dire sans commentaire, mais vous avez fait un commentaire, Biaksubo. Je donne raison au président Trump, les gens font du mal aux autres dans leur pays et se cachent tranquillement chez les autres. Pourquoi ne choisissent-ils pas l'Afrique, qui est vaste, pour s'exiler? Je salue cette décision et nous l'avons au téléphone. Paimi Biaksubo, bonsoir. Vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Les bénis qui est avec nous en fait. J'ai lu le commentaire tout à l'heure. Les bénis Moïse, quelque chose d'autre à ajouter après le commentaire que vous avez laissé sur la page Facebook de VOA Afrique?
Bonsoir VOA Afrique, excusez-moi.
Allez-y, l'antenne est à vous.
Oui, effectivement, je voudrais ajouter quelque chose. Et je voudrais dire par là que l'avenir de la jeunesse africaine ne doit pas dépendre de la politique intérieure des grandes puissances. Vous voyez en Europe, vous voyez en Libye, vous voyez au Koweït, où on vient prendre des filles et arriver là-bas, elles deviennent des esclaves. Et vous voyez comment ça marche. Depuis là, et la classe dirigeante africaine ne prend pas conscience de ce phénomène. Je vois que la jeunesse africaine est abandonnée et personne ne plaide sa cause. On organise des séminaires, des rencontres internationales comme il y a eu en 2018 à Lyon. Un sommet dont on a dit on va mettre ça à l'immigration, on va trouver de l'emploi aux jeunes, tout ça, c'est du cosmétique. Et la jeunesse n'a plus confiance à cela. Et je voudrais ici interpeller les dirigeants. Oui. Parce que ça n'intéresse plus personne. C'est devenu un effet banal. La mort dans la Méditerranée en cascade. Et on rapatrie Manu Militari des humains, les attaques dans les avions qui les sièges. Les présidents ne s'intéressent pratiquement pas. Personne ne parle de ça. et dans les présidences, dans les palais présidentiels en Afrique, c'est pas au programme. Et le programme qui est là, c'est modifier la constitution pour un troisième mandat. Modifier la constitution pour un troisième mandat. Et comment on appelle, rayer la liste des opposants. En tout cas, il y a d'autres qui sont un peu optimistes pour l'avenir du continent africain. Mmh. Mais quand tu vois un peu la madigane de la classe dirigeante, vraiment, c'est inquiétant.
Les Béni Moïse, je vous remercie. Bakary Tandia, vous venez de l'entendre. Cette question relance tout le débat sur les raisons pour lesquelles les jeunes, les Africains, veulent partir de leur continent, au risque de leur vie, évidemment. Un commentaire là-dessus, Bakary Tandia?
Oui, enfin, il a soulevé un problème très important. Quand il s'agit d'analyser une situation, il faut l'analyser dans toute sa totalité. Mm-hmm. Nous savons que ce qui se passe actuellement avec les mesures que viennent d'annoncer président Trump sont totalement contraires à tout principe du respect des droits fondamentaux. Par ailleurs, la responsabilité fondamentale incombe aux dirigeants africains. Il y a la corruption, la violation des droits de l'homme. Si nous prenons l'exemple du Tchad ou du Cameroun, un président qui veut mourir au pouvoir avec les atrocités qui se passent au niveau, dans la zone anglophone. Bon, nous avons la situation, par exemple, au Mali, le nettoyage ethnique contre les Peuls. Si nous prenons l'exemple de la Mauritanie, par exemple, nous avons un système d'enregistrement biométrique qui fait que les Noirs ont des difficultés à s'inscrire sur les listes. Et si tu n'arrives pas à t'inscrire, ça veut dire que tu tombes dans la situation, tu deviens apatride. Parce que si administrativement, tu n'as pas de papier, tu n'as pas de carte d'identité, techniquement, tu n'existes pas. Donc, ce sont ces conditions qui forcent les Africains à quitter. Personne ne veut quitter sa patrie, personne ne veut quitter sa famille, personne ne veut quitter son pays si, en tout cas, tu peux y vivre dignement avec tes droits fondamentaux respectés. C'est-à-dire, c'est une situation que nous devons, en tout cas, dénoncer. Et la jeunesse africaine doit devenir de plus en plus active dans le cadre de la lutte pour la défense de leurs droits fondamentaux et la promotion de la démocratie et des droits humains.
Alors, Maître Fa, on sait que ici aux États-Unis, la tension se porte sur les migrants qui franchissent illégalement la frontière. Mais vous avez le Centre pour les études sur l'immigration, et c'est un centre qui est présenté comme non partisan, qui affirme que les dépassements de visas représentent un chiffre important dans le nombre élevé d'immigrants clandestins dans le pays. Des chiffres indiquent par exemple que 415 000 personnes seraient restées aux États-Unis après avoir dépassé la durée de la validité de leur visa non-immigrant au cours de l'an dernier. Certains pays ont des taux de dépassement de séjour pouvant atteindre 40%. Les pays visés seront ceux ayant accumulé des taux de dépassement de la durée de séjour de plus de 10%. Il s'agit de l'Afghanistan, de l'Angola, du Bhoutan, du Burundi, du Tchad, de la République du Congo, de Djibouti, je le disais tout à l'heure, de l'Érythrée, de la Géorgie, du Laos, du Libéria, du Nigeria, de la Somalie, du Soudan du Sud, du Yémen et du Soudan. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, un analyste disait dans le reportage qu'on ne sait pas pour le moment ce que ces pays pourraient faire pour éventuellement aider les États-Unis à combattre ce fléau. Donc, pour le moment, on n'a aucune idée, c'est ça?
Je ne pense pas qu'on n'a pas d'idée. Et à la liste, j'aimerais ajouter le Bénin, que vous avez... Donc, par rapport à la solution, je pense qu'entre l'Amérique et le reste du monde, ou alors la plupart des pays, il y a l'accord de coopération militaire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un accord de coopération économique, d'économie et de développement? Alors, si vous voyez la plupart des personnes qui viennent et qui restent aux États-Unis après leur durée de séjour, refusent de rentrer chez eux, c'est parce que, premièrement, économiquement, ils ne sont pas mieux assis dans leur pays d'origine. Deuxièmement, c'est un problème simplement politique. Je ne vois pas une autre raison qui va pousser les gens à partir de leur pays, abandonner leur patrie, abandonner leur famille pour venir s'installer aux États-Unis où certainement ils vont peut-être louer une petite chambre quelque part et vivre en cachette ou bien se débrouiller dans le noir afin de s'en sortir tous les mois. Alors si vous avez, au lieu de vouloir mettre des amendes sur des pays d'origine de ces citoyens, au lieu de vouloir sanctionner des individus ou bien mettre des bons, vous pouvez créer une possibilité, ou alors l'Amérique pourra créer un accord avec les pays d'origine de ces immigrants. Ok, voilà, si vous voici, je vais mettre 5 millions de dollars dans tel projet, si vos ressortissants qui reviennent ici sont installés dans un cadre de formation et ont du boulot, on va regarder sur 5 ans ce qu'ils sont devenus avec les financements qu'on vous accorde. Je pense que même ceux qui sont ici, qui sont légalement immigrants, vont prendre les pieds et retourner dans leur pays pour construire leur pays. Donc pour moi, je ne pense pas, et sans vouloir vraiment fustiger l'Amérique ou accuser l'Amérique, ils ont la souveraineté de leur nation. Je ne suis pas en train de défendre l'illégalité de ce phénomène. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui viennent, qui restent ici, ont le droit de rester. C'est illégal. Vous avez une durée de séjour, vous devez sortir. Mais moi, je pense qu'il faut attraper le problème à la base. C'est pourquoi est-ce qu'ils viennent ici et refusent de retourner? Alors, on va regarder pas plus loin que du pays où ils sortent. Quelles sont les conditions dans ce pays? Si vous avez la possibilité de financer l'armée pour préparer les éventuelles guerres, pour préparer je ne sais quoi bien, alors vous avez également la possibilité de mettre des... de donner la possibilité de la croissance économique au lieu de mettre 50% ou bien 100% dans une coopération militaire qui, pour une guerre qui ne va jamais arriver. Pourquoi ne pas diriger peut-être 80% de ce revenu dans la coopération économique, dans le développement et créer des entreprises qui vont accueillir, des centres de formation qui vont accueillir tous ceux qui sont ici. Vous leur promettez, quand vous rentrez dans votre pays, voilà ce qui vous attend, voilà la formation qu'il y a sur place, oui, et voilà les salaires qu'il y a. D'accord. Moi, je pense que ce serait une solution.
Oui, le temps passe très vite. Je vais prendre un autre appel. Jean Adonis Siswaka, vous êtes à l'antenne. Allez-y rapidement, Jean.
Oui, bonsoir, la Zéro. Bonsoir à tous.
Bonsoir, allez-y.
Je pense que et c'est une affaire politique de prendre en train de se faire un deuxième mandat.
Malheureusement, Jean, on vous entend à peine. La ligne est très mauvaise. Alors, vous dites dans votre commentaire, le président Trump doit vraiment briguer un deuxième mandat. Il tient à ses paroles et veut aider l'Afrique. Je peux le qualifier de quelqu'un qui est dans l'intérêt extra-général. Je dois dire que ça, c'est nouveau pour moi. Je l'apprends. Les relations entre les États-Unis et les États de l'Amérique latine évoluent au jour le jour. Voilà un bel exemple à suivre. Maître, je voulais vous demander tout à l'heure, en fait, il y a quelque chose qui a été évoqué, notamment ce bon d'admission, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une caution peut-être que les voyageurs devraient payer et qui leur serait remboursée à leur départ des États-Unis. Qu'en pensez-vous?
Je trouve que c'est un peu compliqué de demander des bons d'admission parce que parmi ceux-là qui veulent visiter l'Amérique, il y en a qui n'ont pas la possibilité de se payer ce bon d'admission. Vous comprenez, et je trouve que c'est pas logique. Vous avez aux frontières, lorsque vous venez ici de façon illégale, sans visa, vous êtes détenu aux frontières, vous avez la possibilité d'être libéré ayant payé un bon, ou alors d'être libéré et vous garantissez que vous allez revenir au procès. Vous qui êtes en train d'entrer aux États-Unis, le bon, c'est par rapport à votre garantie que vous allez revenir au tribunal, à une audience éventuelle. Moi, je ne pense pas que l'idée du bon... Et, ou bien de la caution à la frontière, la caution d'entrée à la frontière, oui, c'est même légalement faisable. Oui. Je ne trouve même pas ça comme une possibilité. Et si c'est légalement faisable, quelle sera la procédure de mise en œuvre, oui, de ces bons? S'agit-il de 1 000 dollars? S'agit-il... Et si je suis milliardaire, je viens m'installer aux États-Unis, oui, vous me donnez un bon de 1 000 dollars, est-ce que ça empêche que je m'installe aux États-Unis?
C'est un sujet, évidemment, qui provoque beaucoup de débats. Mais il y a certains qui vous diraient que ces mesures pourraient faire partie de cette politique d'immigration que veulent et que veulent adopter les États-Unis, ce qui pourrait même éventuellement aboutir à une augmentation de la migration légale dans le cadre d'un passage à un système fondé sur le mérite. Donc, évidemment, c'est un débat qui va continuer. Je vous remercie. Merci à nos invités. C'est ici que nous refermons l'Amérique et vous. Merci donc à nos invités. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous ce soir. Michel Joseph a assuré la mise en onde. Au micro, c'était Jacques Aristide. Bonne soirée, bon week-end. À très bientôt.